ça va à peu près ce que je vous ai dit là. Je me dépatouille avec des tout petits moyens parce que c'est vrai que je n'ai aucune connaissance. Par contre, il y a certainement des gens parmi vous beaucoup plus doués. Si vous avez quelque chose à dire, par contre, si vous avez une connaissance, ça c'est intéressant même pour le public. Hein, je n'ai pas l'intention de monopoliser l'énergie. Vous faisiez-vous allusion à quelque chose de précis ou pas? Non. D'accord. D'accord. Y a-t-il une autre question?
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer les limites de votre science? Où elle peut commencer et où elle peut se terminer?
Alors, les limites donc de la psychanalyse, en fait. Oui, ça c'est une grande question aussi. Hein. Alors, oui, tout le monde peut relever de la psychanalyse, mais tout le monde n'est pas prêt justement à suivre une analyse. Pourquoi? Parce que l'analyse a aujourd'hui la forme de travail sur soi la plus approfondie. Il est certain que lorsqu'on commence une analyse, eh bien, on va aller à la rencontre de ce que l'on est véritablement. Et curieusement, d'où l'on vient. Mais d'où l'on vient, non pas déformé par la défense, c'est-à-dire qu'on va entendre par mécanisme de défense tout ce qui nous a fait mal et que l'on a transformé, ce qu'on appelle des formations de compromis, tout ce qui a été véhiculé aussi par une famille, quelle qu'elle soit, qu'elle aussi a été soumise donc à ce qu'on appelle l'inavouable, par exemple à un sentiment qui est très réducteur, comme la honte. Après tout, on a à avoir honte de quoi, de qui, par rapport à quoi, par rapport à qui, quand on sait par exemple qu'on peut avoir sur les épaules. Donc, c'est l'exemple, pardon, dont je parlais tout à l'heure, à titre personnel, des histoires qui ne sont pas la mienne, qui ne sont pas la nôtre, mais qui non seulement remontent à nos parents, mais aussi à nos arrière-grands-parents. Et parfois, on peut retrouver, par exemple, sur des bilans extrêmement poussés, notamment linguistiques, des affects qui sont transmis donc par somatisation interposée. La somatisation, ce n'est pas uniquement la maladie, hein, c'est-à-dire ce sont toutes nos conduites d'échec, des fois depuis 500 ans ou 1000 ans. C'est quelque chose d'effrayant. Tout cela subissant, bien sûr, donc encore une fois, des déformations donc par la défense. Alors, il faut quand même être prêt. Moi, je ne veux pas dire qu'il faille un certain courage, parce que les analystes, ce sont des gens respectueux de la maturité ou de l'immaturité pulsionnelle du patient à l'instant T. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas s'engager en première intention en analyse. Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les individus qui ont l'habitude, pour des raisons X, Y ou Z, qui peuvent être liées aussi, par exemple, aux professionnels, je pense par exemple à des gens qui ont fait de la géométrie dans l'espace, ou à des architectes, ou à des gens qui ont la foi, c'est vrai que pour nous, c'est relativement pratique parce que déjà, ces gens-là arrivent à comprendre que l'on va travailler sur une énergie qui est abstraite. Donc, encore une fois, vous allez peut-être permettre qu'on parle de l'entretien préliminaire. Tout va se jouer en entretien préliminaire. Alors, actuellement, la population de nos analysants vient de deux horizons, de trois horizons, on va dire différents, puisque tout à l'heure, ça me permet de rappeler que je n'ai pas remercié les enseignants qui apportent beaucoup à la psychanalyse depuis plusieurs décennies. Donc, il y a les médecins qui nous envoient bien sûr des patients. Alors là, c'est pareil, il y a deux catégories de médecins. Vous avez les médecins qui parfois en ont marre, par exemple, parce qu'ils ont un patient qui est hypochondriaque ou parce qu'ils ont un patient dépressif, mélancolique, etc. Alors, eux sont soumis aussi à des règles draconiennes actuellement. On ne va pas non plus rentrer dans des polémiques politiques, mais ils en ont un peu marre d'avoir des actes qui cotent peu. Or, si véritablement on veut faire un travail correct, sur un plan relationnel, vous savez, à moins d'une heure en début de séance, ça paraît difficile. Donc, on a par contre, de fait, une clientèle comme ça qui nous est envoyée de façon un petit peu brouillon et qui ne relève pas particulièrement de la psychanalyse. Soit d'ailleurs parce que à ce moment-là, le patient a des ressources en lui. Je le vois en entretien préliminaire, je bilante en entretien préliminaire et même sur des histoires lourdes, je dis aux patients, bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'estime que vous pouvez vous débrouiller seul, vous n'avez pas besoin de faire une analyse. Ou alors, si vous décidez de faire ce chemin, qui est quand même un chemin qui est long, eh bien, il faut savoir que vous allez effectivement être amené à rentrer dans des sphères où, et c'est ce que Jung appelait la grande psychothérapie, vous allez être amené à mettre en place des passages à l'acte extrêmement positifs à type de réalisation. Il faut savoir aussi que c'est une vie qui va être modifiée. Il ne faut pas rêver, après une psychanalyse, on ne passe pas son temps sur un transat, même si ce n'est pas sa profession, hein, les doigts de pied en éventail. Pourquoi ? Parce que la psychanalyse va ouvrir de plus en plus à une créativité qui va être en adéquation avec ce que l'on est. Alors, effectivement, donc, l'entretien préliminaire nous permet de voir si déjà le patient relève de l'analyse ou est prêt. Alors, je le dis souvent, et je le dis en particulier à mes élèves, là, je mets un bémol, et aussi ça n'engage que moi, bien sûr. Jacques Lacan a dit qu'on pouvait prendre les psychotiques en analyse. En ce qui me concerne, je ne le fais pas. Donc, les psychotiques, entendons par psychotiques, des gens donc, qui ont des discours quand même relativement incohérents ou qui ont des pathologies extrêmement lourdes. Il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Mais en ce qui me concerne, si le discours est très incohérent, et très souvent, ça va aussi avec des profils labiles, avec des gens très instables qui ont beaucoup de mal à accepter la règle analytique dont on va parler, eh bien, c'est vrai que je pense qu'ils relèvent, eux, par contre, de prise en charge plutôt psychiatrique. Mais là, ce n'est pas non plus péjoratif. Vous avez des psychiatres qui font un excellent travail. Ce n'est pas non plus la caricature du psychiatre qui fait allonger les gens, qui les... C'est un terme provençal... que je vais utiliser là parce que je trouve qu'il est très parlant, hein, il métaphorise ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il ensuque en fait les patients. Non, il y a des psychiatres qui font un excellent travail aussi. Donc effectivement, là par contre, c'est quand même le psychanalyste qui va en somme accepter ou diriger le patient autrement. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un partenariat de qualité avec le médecin ou avec l'enseignant. Alors, on a cette problématique actuellement en pédopsychanalyse, donc avec la prise en charge des enfants. Alors, les parents, là aussi, peut-être pour des raisons sociologiques, peu importe, démissionnent complètement. Alors, ils vont d'abord s'adresser au premier sauveur. Le premier sauveur, c'est l'enseignant. Puis, les enseignants ne se laissent pas faire. Alors, il y a des équipes, bien sûr, dans le monde enseignant, donc dans l'éducation nationale, qui, effectivement, est là pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Notamment aussi les psychologues scolaires. J'ai pas, le terme n'existe plus. Ça existe toujours, si. Bon, les psychologues scolaires, etc. Puis autres catégories socio-professionnelles, là aussi, que je ne domine pas du tout. Et puis, ben, souvent, ces professionnels-là aussi se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, on a en pédopsychanalyse aussi beaucoup d'enfants qui nous sont envoyés par ce truchement-là. Alors, là aussi, ça dépend de l'intermédiaire, parce que vous pouvez aussi avoir des professionnels qui ne font pas leur travail et qui pourraient éviter aussi des prises en charge difficiles, parce que là, il y a un réel problème d'éthique, dans la mesure où vous savez qu'une psychanalyse doit être payée par le patient. Or, l'enfant va être soumis, lui, aux parents payeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui fait amener un dessin selon son âge, ou une petite pièce de monnaie, donc de façon très symbolique. Il faut qu'il règle, s'il veut que ses problèmes se règlent, mais les parents vont bien sûr assumer la différence. Le problème qui se passe dans les prises en charge pédopsychanalytiques, c'est qu'elles sont soumises à la même règle que ce qui se passe au niveau des adultes, à savoir que tout individu a découvert d'abord son parent comme bon objet, puis mauvais objet. Donc, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le transfert positif et le transfert négatif. Alors, le petit homme, quand il vient chez nous, ben, au départ, il va effectivement démarrer aussi par une histoire d'amour, donc ce fameux transfert positif. Pourquoi ? Puisque la règle analytique fait que les parents fantasmatiques, c'est-à-dire ces parents tels que nous les avons compris ou pas compris dans la période de 0 à 6 ans, qui a été fondamentale et plus ou moins structurante pour notre vie d'adulte, eh bien, l'analyse de par la règle va faire qu'il va y avoir l'établissement donc, du parent transférentiel. Et à ce moment-là, donc, au tout début de la cure, le petit enfant va rentrer chez lui en disant « la dame, elle est géniale » ou « le monsieur, il est génial ». Et petit à petit, les parents vont se sentir frustrés, exclus. Donc, ils nous les retirent de façon prématurée. Ça, c'est un peu dommage. Très souvent, Françoise Zoltour en a beaucoup parlé. Alors, d'autant qu'il y a un paradoxe, c'est très souvent... les parents, donc surtout ceux qui démissionnent, cassent un peu les pieds à l'enfant, lui disent « Mais tu vas aller voir Monsieur Dupont, il est psychanalyste, tu vas voir, il est génial, non, je ne veux pas y aller, non, je n'irai pas. Alors, on voit le gamin arriver, là, qui est traîné par le parent. Et puis, quand les choses commencent à bien se passer, les parents nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. En général, c'est ce qui se passe. Et l'enfant ne comprend plus rien, puisqu'en fait, on met dans sa vie inconsciente une rupture. Et là, je peux vous assurer qu'en guidance de cure, ce n'est vraiment pas le moment. Alors, effectivement, là, j'essaie de vous parler des limites de façon simpliste, mais c'est à nous à être responsables. Mais là, on rentre dans des pléonasmes. Il faut être honnête. Mais je ne peux pas croire qu'il y a un psychanalyste malhonnête. Alors, il n'est pas psychanalyste. Il n'a vraiment rien compris. Pourquoi peut-être aussi, ce que je pourrais rajouter, c'est que je trouve que nos patients nous font une confiance extraordinaire. Ils nous confient la partie la plus subtile de l'individu, c'est-à-dire l'être. Pour d'autres, ce sera l'âme. Bien, moi, je peux vous assurer que je n'ai pas envie de trahir mes patients. Hein. C'est moi qui vous le dis, parce que j'ai toujours, j'aime pas tellement le terme, mais j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je vois la construction d'un travail analytique. Et si toutefois je suis maladroite, c'est certainement pas pour être malhonnête, ça, par contre. Voilà, donc je pense qu'encore une fois, dans la profession, il y a beaucoup de psychanalystes de grande qualité, ça aussi. Malheureusement, vous le savez, vous avez vu à la télévision ce qui se passe, chaque fois qu'il y a un pseudo-psy qui est à la télévision, ça devient une caricature, et on a une profession qui est complètement abîmée. Ça, on n'y peut rien, alors voyez, on travaille comme ça, nous, modestement, comme des artisans, de façon très laborieuse. Hein. Ça répond aussi à ce que vous vouliez savoir.